OK, on va commencer un nouveau livre, celui de Josué, dans la première partie. Alors, on va faire comme on le fait à habitude. La première partie d'un livre qu'on étudie, on procède toujours de la même façon. On regarde l'arrière-plan, le but principal du livre. Il y a toujours un plan qui a été fait par des gens qui ont étudié les livres auparavant, par les théologiens ou par les pasteurs. Les thèmes majeurs, chaque livre a un thème majeur. Chaque livre a aussi des personnages clés, des versets clés, des leçons pour le peuple de Dieu de l'époque et des leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Alors, tous les livres comprennent cela. Et on a aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Josué. Alors, on est en train de rentrer dans une nouvelle section de la Bible. Il est important de noter que l'Ancien Testament est composé de plusieurs sections. Quand on regardait, ceux qui regardent des fois les petites Bibles qu'on avait, on les voit les divisions. Là. On a le Pentateuque, qui est les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On a les livres historiques, Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. On a les livres poétiques, qui sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. On a aussi les prophètes, ceux qu'on appelle les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et aussi ceux qu'on appelle les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Alors on le sait, c'est 39 livres dans l'Ancien Testament. Alors les livres historiques vont continuer l'histoire d'Israël là où le Deutéronome s'est terminé. À la fin du Pentateuque, les Israélites sont arrêtés à la frontière de la terre promise. Ils ont entendu les instructions de Moïse, ses commandements et ses conseils pour entreprendre la conquête. Moïse mourut sur le mont Nebo. On le voit dans Deutéronome 31, versets 1 à 12. Dieu avait choisi Josué pour remplacer Moïse, pour conduire les Israélites dans la conquête de la terre promise. C'est intéressant de noter que Moïse a toujours représenté la loi. Et celui qui va faire rentrer le peuple dans la terre promise, c'est Josué. Et en hébreu, c'est Yahushua, même que Jésus. Quelque part, de faire le lien entre les cinq premiers livres de la loi, c'est pas la loi qui a fait rentrer les gens dans la terre promise, c'est Josué. Très intéressant de faire ce lien-là. Alors, les livres historiques racontent l'histoire du peuple de Dieu avec la terre promise. Alors, les livres comprennent la conquête et l'installation dans cette terre avec ses joies, ses tentations, ses échecs et ses défis. Quand on lit le livre de Josué, c'est ça qu'on voit. On voit qu'il y a eu des joies, ils ont conquis, maintenant ils ont eu des tentations, ils ont eu des échecs, ils ont eu des défis. Les 12 livres historiques s'étalent sur une période de 1000 ans, donc approximativement de 1400 avant Jésus-Christ à 400 avant Jésus-Christ. Durant cette période, nous lisons la dramatique histoire du peuple d'Israël et de ses rois, beaucoup de désappointements et quelques accomplissements remarquables. Israël changea d'un groupe de 12 tribus relativement organisées à un royaume uni, sous David et Salomon, suivi d'un royaume divisé, l'Israël du Nord, avec ses 20 rois qui firent le mal aux yeux de Dieu, et le royaume du Sud, qui est Juda, qui eut également 20 rois, avec 7 qui firent le bien aux yeux de Dieu. Intéressant de voir que sur 40 rois, il y a eu juste 7 qui ont fait le bien. Alors on voit que les dirigeants, c'est pas nouveau, sont enracinés dans le mal. Alors la figure dominante des livres historiques est le roi David. Dieu l'avait choisi, lui et ses descendants, pour régner et bénir son peuple. Les livres historiques nous donnent le récit de l'échec d'Israël de garder son alliance et des relations de Dieu avec eux, à la fois justes et miséricordieuses. Les livres historiques sont importants parce qu'ils contiennent les récits de comment Dieu est relié à l'histoire de son peuple et de toute la terre. Ces histoires nous racontent comment Dieu travaille à travers l'histoire des hommes. Dieu travaille parfois de façon directe, comme dans l'histoire de Josué. Dieu travaille parfois de façon indirecte, comme par des prophètes comme Samuel et Élie, ou à travers des nations comme l'Assyrie et Babylone. Intéressant de voir que le Seigneur se sert parfois de nations ennemies du peuple de Dieu pour faire progresser le peuple de Dieu lui-même. Alors Dieu travaille aussi en arrière-scène, comme dans le livre d'Esther. Alors on voit trois manières de travailler du Seigneur, direct, indirect et aussi en arrière-scène. Il y a certains livres où le nom de Dieu n'est même pas mentionné, mais on sent sa souveraineté en arrière de tous les événements qui se produisent dans le livre. Alors, je vous ai mis le petit tableau où vous avez la division des livres qu'on a nommés tantôt, les cinq livres de la loi qu'on appelle la Pentateuque, les 12 livres, l'histoire des, qui est vraiment les 12 livres historiques, qui comprend l'histoire du peuple hébreu, 5 livres poétiques et 17 livres prophétiques, dont les petits et les grands prophètes et les petits prophètes. Donc, l'arrière-plan du livre de Josué. L'auteur, selon la tradition juive, c'est Josué. Mais comme je vous ai dit souvent, quand on regarde dans les... Disons que vous achetez un commentaire sur Josué, vous allez voir qu'il y a des commentateurs qui partent des fois des grands bouts de 30, 40, 50 pages des fois, de grandes théories ronflantes là, pour arriver à la conclusion que c'est Josué. Donc la date que ce livre-là aurait été écrit, 1400 ans avant Jésus-Christ, approximativement. Pour ce qui est du cadre géographique, je vous ai mis la carte, est en anglais, mais c'est assez facile à suivre à cause de tous les petits numéros qui sont là. Alors, vous avez la description du trajet que le peuple de Dieu a à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, aller jusqu'au moment où ils sont rentrés dans la terre promise. Et c'est intéressant de garder ces choses-là en main et à la vue quand vous étudiez le livre, parce que vous voyez exactement qu'est-ce qui s'est passé. Le troisième point, vous avez le plan du livre. Alors, on peut dire que le thème du livre de Josué, c'est vraiment la victoire de la foi. Donc, on peut dire qu'il est divisé en trois. L'entrée dans la terre, chapitre 1 à 5. La conquête de la terre, chapitre 6 à 12. Et l'occupation de la terre, chapitre 13 à 24. Quand on a ça à l'esprit, qu'on lit le texte, ça nous aide beaucoup à voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là. Alors, quand on regarde le chapitre 1 à 5, il y a comme 5 chapitres avec 5 idées différentes. Donc, le premier chapitre, c'est qu'on voit que Josué est commissionné divinement. On pourrait appeler ça la garantie de la foi. Ensuite, il envoie des espions à Jéricho, chapitre 2. Donc, on pourrait appeler ça la prudence de la foi. Tu t'attaques pas avant de savoir à qui t'as affaire et combien de personnes il y a là. Ensuite, le Jourdain traversé, dans le chapitre 3, ils ont traversé le Jourdain. On sait qu'il y avait un problème là, il y avait une crise de la foi. Alors, il fallait qu'ils traversent le Jourdain étant cru, au printemps. Il fallait qu'ils traversent la rivière. C'était pas évident là, pour le peuple de Dieu de dire « on traverse pareil ». Mais là, il y a eu le miracle que le Seigneur a fait reculer les eaux puis, pour qu'ils passent un peu comme l'équivalent du miracle de la mer Rouge. Ensuite, on a les mémorials bâtis. Après qu'ils ont traversé, on se souvient qu'ils ont voulu établir des mémoriaux pour se souvenir qu'ils ont traversé tout cela. À l'intérieur, sur la terre même, où ça avait ouvert, ils avaient installé des endroits pour, c'est comme des mémorials, pour se souvenir. Donc, on pourrait dire les témoins de la foi. Et chapitre 5, c'est Gilgal occupé. Ensuite, dans la deuxième partie, chapitre 6 à 12, on a vraiment la chute de Jéricho. On pourrait appeler ça la foi triomphante. Le péché d'Acan. On se souvient, c'était quoi le péché d'Acan?
Ouais.
Il avait dit, c'était surinterdit, il avait pris le manteau de Chinéar, il avait pris de l'or, d'un étang, il avait enterré ça. Et là, ça faisait en sorte que ça avait semé le trouble dans la conquête. Et le Seigneur a fait en sorte que par le sort, il a fini par faire sortir la tribu, fait que l'individu est sorti. Qu'est-ce que tu as fait? Là, il a avoué son péché, mais ça lui a coûté cher à Caen. Après ça, il y a eu la prise d'Aï. On sait que ça a été un des problèmes, c'est qu'ils s'étaient trop fiés sur leurs propres moyens sans consulter le Seigneur. Donc, tu avais le chapitre 7, c'est la foi invalidée, tandis que le chapitre 8, c'est la foi revalidée. Ensuite, au chapitre 9, on a la ruse des Gabaonites, qui faisait semblant qu'il avait traîné du pain, puis c'était vraiment qu'il ne voulait pas se faire attaquer par les Hébreux. Alors, il avait compté des mensonges pour se faire protéger. Alors, la ruse des Gabaonites, la foi compromise, autrement dit, ça nous apprend là-dedans que des fois, il faut être prudent avec ceux qui agissent juste par hypocrisie. Ensuite, tu avais la déroute des ennemis, chapitre 10 à 12, la foi victorieuse. Et la troisième partie, c'est vraiment l'occupation de la terre. Là, ils ont commencé à rentrer dedans. Et le Seigneur avait permis qu'ils divisent Canaan, donc la foi récompensée. Ensuite, il a établi dans le chapitre 20 les cités de refuge, la foi protégée et la portion des Lévites, la foi préservée, l'autel de témoignage, la foi unissante et les adieux de Josué, chapitre 23 et 24, la foi poursuivie. Alors, c'est un livre très intéressant, le livre de Josué, plein de leçons pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, le but principal du livre, le livre du Deutéronome avait préparé le peuple de Dieu pour les guerres de conquête à venir vers la terre promise et la distribution des terres entre les tribus. Le livre de Josué nous montre comment Dieu avait amené son peuple dans la terre promise et leur avait donné du repos. Le livre sert de pont entre l'expérience du désert et la nouvelle époque d'entrée dans les promesses de Dieu. Le livre est nommé d'après le nouveau leader militaire que Dieu choisit pour remplacer Moïse. Le livre de Josué nous démontre pourquoi et comment Israël se retrouverait éventuellement en exil. Le livre nous sert d'aide-mémoire pour nous signifier que le péché et la rébellion avaient déjà commencé à paver la voie pour l'exil d'Israël, bien avant que Dieu n'exécute son jugement envers Israël et Juda. Donc, les thèmes majeurs, la fidélité de Dieu à ses promesses, la conquête, l'installation et la vie dans le nouveau pays. Alors, j'avais mis une petite carte où vous avez les divisions que le Seigneur avait dit, que telle tribu arrête tel endroit à partir de la mer. Alors, vous avez toutes les divisions que le Seigneur avait dit donner aux différentes tribus. Ensuite, on avait l'alliance entre Dieu et Israël. On avait la sainteté de Dieu et ses jugements. On voit là-dedans que Dieu, quand il dit quelque chose à l'interdit et que le peuple désobéit, un qui a désobéi a fait en sorte que tout Israël a été battu envers une ville que normalement il aurait dû avoir aucune difficulté à les conquérir. À cause de ce péché-là, le Seigneur a permis qu'ils perdent. Parce que pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas consulté le Seigneur. Et le Seigneur, il nous donne une leçon à travers de ça. Agir sans consulter, quand on est des chrétiens, il y a des dangers à ça. Et ça nous parle aussi de l'unité du peuple de Dieu et le rôle de Josué comme leader militaire d'Israël. Et comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment en hébreu, c'est plus visible. Josué, c'est Yahshua. Jésus, c'est Yahshua. Alors, quelque part, faire le lien de voir que c'est pas Moïse qui a fait rentrer le peuple dans la terre promise, mais c'est Yahshua. C'est très significatif, je trouve. Quant au personnage clé, on a bien entendu le personnage de Josué. Alors, Dieu le choisit pour devenir le leader d'Israël après la mort de Moïse. Il organisa, conduisit et établit Israël dans le nouveau pays que Dieu leur a promis. On a aussi le fameux personnage de Rahab, qui était une prostituée. Alors, elle était une prostituée païenne qui démontra de la bonté et de l'hospitalité envers les espions d'Israël. Elle fit preuve de foi envers le Dieu d'Israël et devint membre du peuple de Dieu de l'Alliance. Elle est listée dans la généalogie des ancêtres de Jésus. C'est qu'on a fait, je pense qu'on avait déjà donné un document, il y a plusieurs femmes qui sont mentionnées dans Matthieu, dans la généalogie de Jésus. Et quand on regarde le type de femme, des fois, on se dit, Mais le Seigneur les mentionne parce que cette femme-là, même si elle était une prostituée, quand il était le temps de prendre une décision, si elle aidait les espions ou si elle les aidait pas, elle a pris la bonne décision et elle a eu la vie sauve à cause de ça. Et c'est vraiment l'image du salut. Elle et sa famille ont été sauvées à cause du petit ruban rouge qui avait été mis sur ses affaires. Ça, c'est intéressant aussi de voir l'image du salut aussi à travers de tout cela. Parce qu'on voit dans Matthieu 1, verset 5, « Salmon engendra Boaz de Rahab. » Très intéressant de noter que Rahab, Boaz, c'était le mari de Ruth. Alors, il était dans la lignée de David. C'est très intéressant de voir que David, sa grand-mère, c'était une prostituée. Alors, Dieu fait grâce. On voit vraiment l'image de la grâce à l'intérieur de ça. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Puis Isaïe, c'était le père de David. Alors, très intéressant. Autre personnage clé dans ce livre-là, c'est Achan. Très intéressant que le Seigneur, le nom hébreu, quand vous le lirez dans l'hébreu, son nom signifie « il a causé du trouble ». Imagine qu'il a créé du trouble. Alors, à la prise de Jéricho, il s'empara pour son usage personnel d'un vêtement babylonien, qui était le manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or faisant partie du butin de Jéricho, lequel devait être entièrement livré à la destruction. Et là qu'on voit que quand le Seigneur commande quelque chose, je vous dis, ben oui, c'est rien qu'un manteau, pas tout. C'est rien que des lingots d'argent. Et quand le Seigneur parle, t'es mieux d'écouter parce que tu vois qu'il y a des conséquences là. Alors, on a tiré au sort pour découvrir le transgresseur et le responsable de la catastrophe, Achan, fut désigné. Alors, ça, il y a une autre chose intéressante aussi de voir là-dedans, c'est que le hasard pour Dieu, quand il dit « on tire au hasard » et telle tribu a avancé. On retire au hasard, à l'intérieur de la tribu, il y a une famille qui est sortie. On tire au hasard et la manière de Dieu de travailler, de faire sortir d'un gros groupe, l'entonnoir a fini par dire « c'est qui le coupable ?» Alors, Achan a été désigné, il a confessé son crime, mais il n'évita pas la mort. On le lapida et on le brûla avec toute sa famille et tous ses biens. Ça aussi, c'est une idée très intéressante dans l'Ancien Testament. Le chef de la famille, lorsqu'il faisait une erreur, c'était lui, sa femme et ses enfants qui payaient pour. Des fois, on peut se poser la question, ben oui, mais c'est pas juste. Nous, dans notre tête d'occidental, c'est la manière de Dieu de travailler. Josué, chapitre 7, versets 24 et 25. Josué et tout Israël avec lui prit Rakan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, et on les brûla au feu, et on les lapida. On voit la sévérité des fois du Seigneur, des fois dans beaucoup de versets des Écritures, dans Romains, ça dit, « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » On est porté à penser rapidement sur la sévérité de Dieu et à s'extasier devant la bonté de Dieu, oui, mais considère aussi la sévérité. Un autre personnage important, c'est celui d'Éléazar, qui était le troisième fils d'Araon et le père de Phiné. Il devint souverain sacrificateur à la mort d'Araon. Il joua un rôle éminent lors du passage de Canaan par le sort entre les diverses tribus. On voit dans Josué 14, verset 1. « Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ceux qui partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. » On a aussi le personnage de Phiné. Alors, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, il perça de sa lance un Israélite et une Madianite qui profanaient le camp de Sittim. Ce châtiment arrêta la plaie sévissant au milieu du camp à cause de l'idolâtrie et de la débauche causée par les femmes madianites et la complicité des Israélites. Il reçut une récompense. Lui et ses descendants seraient sacrificateurs d'Israël pour toujours. On a l'histoire dans Nombre 25, versets 6 à 13. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. » C'est assez vert, hein? Avec une femme, il voulait rentrer dans sa tente. Lui, il savait que ça déplaisait à Dieu et qu'il les a percés tous les deux vers le bas-ventre. Hé! C'est sévère, ça. Alors, dans le verset 13, il dit, « Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » Quelques versets clés qu'on répète souvent quand on étudie ce livre-là, le fameux Josué 1:8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et on a aussi les paroles de Rahab dans Josué, chapitre 2, verset 11, « Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Oui, t'as peut-être une prostituée, mais spirituellement, Dieu lui avait ouvert les yeux à la compréhension de quelque chose de très important, que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu qui contrôlait toutes choses. Josué 21, verset 43-45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quel beau verset. Hein? Oui. Quand Dieu parle, tout s'accomplit. Merveilleux. Josué, chapitre 24, versets 14 à 16. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Alors, il y avait des belles résolutions, mais qui ne tenaient pas longtemps. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu était très, très désobéissant. Alors, quelques leçons du peuple de Dieu de l'époque d'alors. Alors, Dieu a été fidèle à sa parole en donnant la victoire à son peuple et du repos dans la terre promise. Dieu accomplit facilement ses promesses à cause de sa puissance et parce que l'univers lui appartient. Cependant, Dieu demande quand même à son peuple d'être courageux, obéissant et confiant. Dans le peuple de Dieu moderne, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce livre-là? Dieu nous a fait aussi des merveilleuses promesses. Nous pouvons être sûrs qu'il va toutes les accomplir à la perfection. Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La place et la présence de Jésus-Christ dans le livre, le nom de Jésus n'est autre qu'une transcription grecque du nom hébreu, Josué, qui est Yéhoshua, qui signifie « le Seigneur donne la victoire » ou encore « l'Éternel est le salut ». Alors, Jésus apporta à son peuple le repos final et définitif. Hébreu, chapitre 4, verset 8, versets 8 à 11. « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors, selon le Nouveau Testament, Jésus n'est pas seulement l'homonyme de Josué, plus grand que le premier, mais il est le combattant divin. Il est le chef de l'armée du Seigneur qui lutte pour son peuple et lui donne la victoire. L'héritage qu'il donne n'est pas une bande de terre située à l'est de la Méditerranée, mais des cieux et une terre renouvelée et une cité céleste. Apocalypse 21, verset 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, application, le livre est très riche d'enseignements sur les victoires que nous obtenons lorsque nous exerçons la foi selon Dieu et que nous obéissons. Hébreux chapitre 11, versets 30 et 31, « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Le livre nous donne aussi de sérieux avertissements contre des comportements charnels et leurs très graves conséquences. L'alliance avec leurs ennemis, sans consulter l'Éternel, et le péché d'Acan qui leur apporta la défaite. Josué, chapitre 9, verset 11 à 16, « Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. « Voici notre pain, il était encore chaud, quand nous avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements, nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. » Alors, on voit le danger de ne pas consulter l'Éternel dans toutes choses. Alors, que le Saint-Esprit nous habitue à comprendre et à appliquer les leçons morales de l'Ancien Testament. Amen.
Amen.